Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et encore une histoire de rêve, parce que ça fait un certain temps que le cinéma américain nous le répète, le rêve américain cette fois a du plomb dans l'aile. Mais au fait, d'où vient cette expression? Qu'est-elle censée signifier, Brice?
C'est James Truslow Adams, un historien qui a forgé l'expression « The American Dream ». Ce rêve, il le résumait ainsi dans son livre « Epic of America » paru en 1931. Le rêve américain, c'est le rêve d'un pays dans lequel la vie serait meilleure et plus riche et plus pleine pour chacun. Le rêve américain, ajoutait-il, ce n'est pas seulement un rêve de prospérité matérielle, mais celui pour tout homme et toute femme de réaliser son potentiel sans les entraves des barrières artificielles érigées par des sociétés plus anciennes et plus stratifiées, sans égard pour les circonstances fortuites de naissance ou de position, pour le citer dans le texte. Alors, on reconnaît là le principe d'équité ou encore d'égalité des chances qui est à la base de la majorité des théories anglo-saxonnes de la moderne de la justice. On peut la résumer ainsi, ce principe. Il faut tout mettre en œuvre pour que les chances que chaque compétiteur de gagner la course soient les mêmes lorsqu'ils sont sur la ligne de départ. À l'arrivée, les efforts et les talents des plus méritants seront récompensés au plus grand bénéfice de tous. Cela rappelle notre fameuse méritocratie républicaine basée sur la sélection par le diplôme. Car, comme notre méritocratie républicaine, celle des anglo-saxons se fonde de plus en plus sur le niveau de diplôme et non plus comme autrefois en Amérique, sur le flair, l'audace ou l'esprit d'entreprise. Les universités d'élite de la Ivy League aux États-Unis, celles qui appartiennent au Russell Group, incluant Oxford et Cambridge en Grande-Bretagne, sont un peu l'équivalent de nos grandes écoles. L'accès y est très sélectif. En 1995, l'Université de Chicago admettait 71% des candidats qui s'y présentaient. L'an dernier, ce pourcentage est tombé à 6%. Les diplômes qu'elles délivrent ont une forte valeur sur le marché du travail, ou plutôt, ils avaient une grande valeur. Car comme on va le voir cette semaine, nous assistons probablement au début d'un processus de dévalorisation des diplômes, ce que le Britannique David Goodhart appelle la tête. Elle va de pair, cette dégradation, avec des attaques politiques virulentes contre la méritocratie en tant que principe de sélection des élites. La plus remarquée est celle lancée par la star américaine des campus, Michael Sandel, dans son livre « The Tyranny of Merit ». Mais Kwame Anthony Appiah l'avait précédé par un article important consacré à l'inventeur du terme même de meritocracy, Michael Young, paru dans la New York Review of Books. Il faudra aussi se pencher sur le livre de l'éminent professeur de droit Daniel Markovitz, The Meritocracy Trap. Son sous-titre est un bon résumé du sujet, comment le mythe fondateur de l'Amérique nourrit l'inégalité, disloque la classe moyenne et dévore l'élite.
Alors, comme on le voit, Brice, les attaques contre la méritocratie se multiplient en ce moment dans le monde anglo-saxon et l'on pourrait trouver cela surprenant.
Ben oui, parce que, après tout, que les plus capables, les plus travailleurs, les plus méritants, en somme, soient récompensés de la valeur ajoutée qu'ils apportent à la société sous forme d'innovation révolutionnaire ou de performance hors du commun apparaît assez légitime. Que les médecins, les avocats, les professeurs ou les ingénieurs soient recrutés sur la base d'examens vérifiant les compétences qu'ils ont acquises au cours de leurs études, peut difficilement être remise en cause. Que le recrutement des fonctionnaires se fasse sur concours est certainement plus rationnel et plus sain qu'en fonction de leur proximité personnelle avec les représentants du pouvoir politique. Comme l'écrit David Goodhart à propos de la Grande-Bretagne, bien des gens préfèrent l'idée d'une méritocratie cognitive à celle d'une classe dirigeante héréditaire telle qu'elle prévalait dans un passé pas si lointain. Dans ce pays, la méritocratie a été dans les années 80 et 90, dit aussi Goodhart, excellent témoin des années Blair, l'une des grandes idées de la gauche modérée. Puisque les idéaux du socialisme s'avéraient décidément démodés, on pouvait se raccrocher, comme l'ont fait les blairistes, à l'idée d'égalité d'opportunité. Et par la suite, le centre-droit aussi, avec Cameron, s'est rallié à l'étendard de la méritocratie. C'était une bonne façon pour les Tories de faire oublier leurs anciens liens avec la gentry, les propriétaires terriens. Une manière de rompre avec la société de caste qu'avait été longtemps l'Angleterre en faisant la promotion de la mobilité sociale. Cela tombait bien, puisqu'à l'époque, le mantra des dirigeants était le passage de la société industrielle à la société de service. Il fallait, disait-on, des études supérieures pour tout le monde, pour former des nouveaux bataillons de cadres généralistes capables de changer plusieurs fois de métier au cours de leur vie. Mais peut-être justement, nos économies ont-elles atteint ces jours-ci la limite de cette logique? On en reparle demain.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.